Aujourd'hui, l'économie. Dominique Bayard, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
L'Amérique latine, on vient de l'entendre, au Chili, est devenue l'un des épicentres de la pandémie de coronavirus. Conséquence notamment des inégalités sociales et d'une gouvernance faible. C'est aussi l'Amérique latine, l'une des régions du monde qui souffre le plus des conséquences économiques du Covid-19.
Oui, plus de la moitié des nouveaux malades répertoriés dans le monde apparaissent désormais dans cette région. Parmi eux, Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui l'a annoncé hier, sans pour autant changer de stratégie, ce corona-sceptique continue à minimiser l'ampleur de la crise. Son pays est pourtant le plus touché par la pandémie, après les États-Unis. Alors si le coronavirus se répand comme un feu de paille en Amérique latine, c'est en partie à cause des structures socio-économiques de ces pays, les inégalités de revenus, par exemple, qui sont très fortes au Brésil, en Colombie, en Bolivie, au Panama ou encore au Guatemala, sont un facteur très important de propagation.
Car le coronavirus circule facilement, Dominique, dans les quartiers les plus déshérités.
Là où la promiscuité est importante, les conditions sanitaires insuffisantes, ces poches de pauvreté se retrouvent parfois à quelques encablures des quartiers habités par la grande bourgeoisie. C'est à cause de cette concentration de disparités que Santiago, la capitale du Chili, est devenue un foyer de coronavirus. L'accès à la santé est aussi très hétérogène dans cette partie du monde, plutôt satisfaisant pour les classes les plus riches et déficient à l'autre bout de l'échelle sociale. Globalement, nombre de ces États n'investissent pas assez dans la santé. Le Pérou y consacre seulement 3% de son produit intérieur brut, alors que l'OMS prescrit un minimum de 6% du PIB. La lenteur de réaction des autorités, voire leur mauvaise foi, comme dans le cas de Jair Bolsonaro, font le reste. La pandémie nourrit aussi la corruption au détriment de la riposte sanitaire avec des détournements de fonds dédiés au Covid ou la manipulation des prix. De multiples affaires sont en cours d'instruction au Brésil, au Mexique ou encore au Pérou.
Et pour les plus pauvres, le choc est rude. Plus exposés à la maladie, ils sont aussi les premiers à perdre leur emploi.
Au Brésil, par exemple, 7 800 000 emplois ont disparu, dont 5,8 millions dans le secteur informel, selon les statistiques officielles publiées la semaine dernière. Jamais d'aussi mauvais chiffres n'ont été enregistrés depuis que ce type d'enquête a commencé en 2012. D'après l'Organisation internationale du travail, les revenus de l'ensemble des travailleurs sud-américains non déclarés auraient chuté de 80%. En quelques mois, le coronavirus va donc effacer des années de lutte contre la pauvreté. Le PIB du Brésil et d'autres pays de la région pourraient chuter jusqu'à 10%. La Banque mondiale estime que 50 millions de Latino-Américains vont glisser dans l'extrême pauvreté avec un revenu quotidien inférieur à $5,50 par jour. Il faudrait des investissements colossaux pour redresser la barre, pour éviter à l'Amérique latine de revivre une décennie perdue, comme celle qu'elle a endurée dans les années 80, quand les économies de la région se sont rétrécies de 10% après une série de défauts de paiement sur la dette extérieure.
En bref, en France, la récession sera finalement moins violente que prévu.
D'après l'Institut national de la statistique, le produit intérieur brut baissera cette année de 9% et non pas de 10% comme il avait été précédemment annoncé, grâce à un fort rebond à ce troisième trimestre qui démarre de l'ordre de plus 19%. L'INSEE est donc plus optimiste que la Banque de France et le gouvernement qui, lui, s'attend toujours à une chute de 11% de la richesse nationale.
Et puis, nouvelle réunion ministérielle aujourd'hui sur le moratoire de la dette. Plusieurs dizaines de pays pourraient en bénéficier.
Et au moins une quarantaine d'entre eux ont déjà fait une demande au niveau du G20 qui coordonne cette initiative. La moitié ont signé un accord. Les ministres des Finances des pays créanciers doivent discuter de la suite du programme. Ils se limitent pour le moment à une période de 6 mois de suspension.